18h-19h. C'est 100% paillade sur France Bleu Héros.
Ce coup de sifflet, ce signe jingle, vous le connaissez par cœur, c'est celui de Bertrand Quenot, 100% paillade. Et Bertrand, mon petit doigt me dit qu'il y a du PSG dans l'air Montpellier.
Eh bah, ben, gardez-le, votre petit doigt, en effet, parce que il a bien raison. Il est visionnaire, votre petit doigt. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Sébastien. Le match contre Paris est-il un match capital? Question ce soir à deux jours donc de recevoir le PSG, et alors que la paillade a mis les points sur les i le week-end dernier.
Il y a des équipes qui arrivent à les accrocher plus facilement que les années précédentes. À nous de faire un gros match, parce qu'il va falloir faire un gros match, quoi qu'il arrive, pour recueillir des points.
Hein. Michel Derzakarian qui veut des points, on en veut aussi, et on va en aborder certains d'ici 19h. Bonsoir Benjamin Psaume.
Salut Béber, salut à tous.
Consultant foot de France Bleu Héros, bonsoir aussi à Baptiste et Nico, supporters en studio.
Bonsoir. Salut Bertrand.
Salut les gars.
Nico qui revient pour la deuxième fois en studio, si je dis pas de bêtises. Et alors Baptiste, puisque tu le connais bien, je vais te poser la question, qu'est-ce qui cache sous cette casquette?
Il n'y a plus rien, il n'y a plus grand chose.
Ça dépasse un peu, non?
Ah ouais, c'est l'hiver.
Illusion. Côté Laurent Blond.
Il faut savoir que sa femme a dit qu'il dormait avec la casquette. Hein. Il dort avec la casquette, mange avec la casquette, il fait tout avec la casquette.
Je suis Jean-Louis Gasset.
Et Jean-Louis Grasset.
Allez, bonne soirée.
Tout ça, c'est le régime.
On va débattre dans un instant. Match bonus ou match important. On se demandera aussi s'il faut être passif ou actif face au PSG de Luis Enrique. Votre avis, 04 67 58 6000. Hashtag Bleu Paillade également sur Twitter. Entretien enfin avec Enzo Château, tourné ce matin à Gramont en tête à tête. Extrait ce soir dans l'émission et diffusion complète en avant-match dimanche soir. Et puis, des places à vous faire gagner, les deux dernières pour aller voir ce Montpellier-PSG après le fiasco du jeu de lundi soir. Un jeu beaucoup plus facile ce soir.
Il était nul ton jeu. Il était complètement nul.
C'est pour ça, j'ai revu ma copie. Vous vous inscrivez dès maintenant 04 67 58 6000. Vous jouerez justement avec Nico ou avec Baptiste d'ici la fin de l'émission. Vous appelez tout de suite Hélène. 04 67 58 6000. Ce sont les deux dernières places de France Bleu Héros. On a fait gagner toute la semaine pour ce match, donc 20h45 dimanche, Montpellier face au PSG.
100% paillade sur France Bleu Héros. Benjamin Psaume, Bertrand Quenot.
C'est pas qu'il était nul, en fait, c'était un jeu d'intellectuel.
Non.
Et Benji l'a pas compris.
Non, si, j'ai compris, mais c'était pas terrible, de l'aveu de tout le monde.
Il reste 9 finales à jouer, parmi elles la réception du PSG. Match bonus d'habitude, Benjamin. Qu'en est-il aujourd'hui? Réponse du milieu de terrain, Jordan Ferry, alors que la paillade a la fâcheuse tendance à s'incliner lourdement contre Paris.
Je pense qu'on n'est pas la seule équipe de Ligue 1 à prendre des volets face au PSG, donc il n'y a pas à rougir de ça. Le PSG est une équipe extraordinaire avec des joueurs qui sont tous internationaux, donc il n'y a pas à rougir de perdre contre le PSG. Après, si on doit réaliser un coup, ce sera un exploit de notre part si on met tous les ingrédients qu'il faut. Après, si on prend n'importe quelle équipe de Ligue 1 sur les saisons précédentes, je ne pense pas qu'on soit les seuls à avoir pris 0 point face à eux. Et sans manquer de respect à qui que ce soit, mais Nice, Marseille, Lyon parfois, c'est pas la qualité de l'effectif de Paris, donc il y a pas forcément à rougir de ça. Et c'est sûr qu'on va rentrer dimanche sur le terrain avec l'envie d'un résultat, parce que c'est primordial pour nous. Mais voilà.
Pour toi, vu la situation de Montpellier aujourd'hui, on peut, comme on le faisait les années précédentes, parler de match bonus, ou est-ce que ce terme n'est plus d'actualité par rapport à la situation du MHSC?
De jouer contre Paris et de prendre des points, c'est toujours des points qui sont pas forcément prévus en début de saison. Donc si on doit prendre des points, ça sera ultra positif pour nous et dans notre course au maintien. Après, si on est amené à perdre dimanche, il n'y a rien qui va s'effondrer. Au contraire, on sait les matchs qui nous restent à venir sur les matchs suivants. Et y aura la trêve pour bien se préparer pour cet enchaînement de matchs qui sera... beaucoup plus important que les points potentiellement perdus contre Paris.
Alors, match bonus ou pas, est-ce que vous partagez, messieurs, l'avis de Jordan Ferry, Benji? Je sais que non, tu vas nous le dire dans un instant. Nico, Baptiste, est-ce que vous êtes d'accord avec Jordan Ferry? Match bonus, selon lui, même si, il ne faut pas non plus le mettre à la poubelle.
Alors moi je pense qu'on aura quand même la chance de jouer dimanche soir les derniers, c'est-à-dire qu'on aura tous les autres résultats avant. Et mine de rien, dans l'inconscient des joueurs, si les autres équipes ont fait des bons résultats, ça sera pas pareil que s'ils ont tous perdu, et là ça sera vraiment la notion de match bonus. Alors après, Benjamin dira peut-être non, nous notre championnat c'est quand même les matchs qui vont arriver après, mais... ça sera quand même serré. Si on peut essayer de gratter un point, pourquoi pas, il faut pas. Et surtout, éviter le gros match où on va prendre peut-être 3 ou 4-0 qui va faire mal à la tête la semaine d'après, juste avant de partir en trêve. Quoi.
Baptiste, qu'est-ce que tu en dis ?
Non, tu peux plus te permettre d'avoir des matchs bonus quand t'as laissé passer autant de jokers depuis le début de la saison, en fait. T'aurais tapé Strasbourg, t'aurais tapé Clermont quand le match a été rejoué, etc., etc. Je vais pas ressortir tous les faux pas qu'on a fait. Tu pourrais te dire, allez, ce soir, allez, allons-y, on a le 14e budget, on est 10e, on est 11e, on se fait plaisir. Non, ce soir, dimanche soir, pardon, tu y vas et tu donnes tout, tu fais une grosse entame de matchs et tu essaies de les mettre en difficulté. Et puis après, si t'as un peu d'orgueil, parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont là depuis 3-4 saisons maintenant, les mecs, ils ont pas gagné Paris depuis 10 ans. Donc à un moment donné, les autres équipes arrivent parfois à accrocher le PSG et pas nous. Voilà, au bout d'un moment, il faut mettre l'orgueil sur la table et il faut aller chercher quelque chose.
Alors, il y en a quand même pas beaucoup, hein, des équipes qui accrochent le PSG, des équipes de notre catégorie, j'entends, parce qu'il reste sur 3 nuls évidemment, mais c'était face à Reims, face à Rennes, face à Monaco. Des équipes jusque-là de notre catégorie, c'est Toulouse et Clermont, mais c'était en début de saison quand le PSG de Luis Enrique se cherchait encore et Paris doit encore jouer Lorient, Le Havre, Toulouse, Metz, Clermont de nouveau d'ici la fin de saison. Moi, je suis assez d'accord avec Jordan Ferry sur le côté match bonus, des points qu'on n'attend pas forcément. Je suis aussi assez d'accord avec ce que tu dis, Nico, mais comme le dit aussi Jordan Ferry, ça veut pas dire non plus que face à Paris tu dois te tourner, tu dois baisser ton pantalon et tu dois te pencher sur le plan de travail, parce que je trouve qu'on a beaucoup tendance à le faire ces dernières saisons, très timide, manque de panache, manque d'ambition cette équipe quand elle joue le PSG. C'est comme si la défaite était courue d'avance et j'ai pas envie de voir ça. Après, quel que soit le résultat, j'ai envie, à défaut de produire du jeu, de tenir le ballon, j'ai envie qu'on montre qu'on est ici pour tenter de le remporter à minima ce match-là. Toi, Benji, tu en dis quoi ?
Ben, j'en dis que t'as dit exactement la définition du match bonus, parce que qu'est-ce que c'est le match bonus, en fait? C'est un truc qui m'a toujours énervé, perso. Quand on me dit match bonus, je comprends pas. C'est quoi un match? En fait, le match bonus, c'est quand tu joues un gros, pour une fois, t'as pas trop la pression du résultat, parce que tu te dis, je me fais taper. Ben, c'est normal, tout le monde l'attendait. Donc, à la rigueur, ce match-là, sans pression. Mais, comme dit Baptiste, est-ce qu'on s'est autorisé le droit d'avoir un match bonus dans ce championnat jusqu'à la fin de saison? Non. On a laissé passer beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de points. Donc là, me parlez pas de match bonus pour Paris. On en parlera de Paris, on va analyser ce match-là, il n'y a aucun souci. Mais me parlez pas de match bonus. Moi, je raisonne, on a parlé de finale. Donc, il y a 2 semaines, on décrète au MHSC qu'on a 10 finales à jouer. Et là, on arrive, on me dit, c'est match bonus. C'est quoi cette histoire? Non, il n'y a pas de match bonus. Comme tu l'as dit, Paris, ils sont sur 3 nuls. Alors, face à des plus belles équipes que nous, mais c'était au Parc. Je vois pas pourquoi on les accrocherait pas. On peut très bien les accrocher. On parlera aussi plus tard de Paris. Mais me parlez pas de finale il y a 2 semaines et de match bonus 2 semaines après. Parce qu'en fait, c'est des jokers. Donc, on va me dire, oui, ça va être contre Le Havre, contre Nantes, contre Toulouse, c'est notre championnat. Mais si on pouvait, en prenant 3 points, s'offrir un joker et pas être obligé de gagner les 4 matchs face à nos concurrents directs, ça va être très compliqué. Mais grattons déjà des jokers avant, face à des gros, comme les autres ont fait. Les équipes de notre championnat nous ont pris des points aussi face aux gros, donc à nous de le faire aussi. Et c'est pour ça que je veux moi, le match bonus, ça m'énerve.
Après, Baptiste,
après, tu vois, Benji, je pense qu'il faudra quand même garder à l'esprit que, mine de rien, les matchs qui suivent seront plus importants. Et je sais pas, moi, si tu as une alerte musculaire, un petit pépin sur TJ, un carton jaune déjà, un joueur qui est un peu trop chaud, etc., je pense quand même qu'il faudra peut-être privilégier aussi les matchs d'après. Être capable de faire tourner ton banc.
T'as une trêve après, Baptiste. T'as une trêve. Et en fait, il s'est passé 9 matchs. C'est 9 matchs. Les 3 points contre Paris seront aussi importants peut-être que les 3 points contre Le Havre tout. Alors même s'ils prennent pas. Mais ça va être important jusqu'au bout. Et dans notre situation, comme je vous dis, on peut pas se permettre de se dire match bonus. C'est dur à dire, mais je te le dirai, Paris, Le Havre, n'importe quelle équipe, quand tu joues des finales, faut gagner. Faut gagner. Je te parle même pas de nul. Pour Montpellier, et je pense qu'ils ont les armes pour faire un coup face à ce Paris-là, actuel. Je pense qu'ils ont les armes. Il faut gagner.
9 défaites d'affilée en attendant en championnat, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Il faut s'inspirer du dernier succès en 2019, peut-être, même si Derzac a reconnu ce matin en conférence de presse que la chance, ce jour-là, c'était aussi invité. Écoutez.
On a eu de la réussite aussi. On l'avait provoqué à travers la grinta qu'on avait mis, à travers la qualité de jeu qu'on avait produit. Et puis Soulet nous avait mis un but. Je pense qu'avec la VAR, on l'aurait pas marqué. Il aurait été annulé.
Voilà, la VAR, on était bien content de la voir pour le coup ce jour-là. L'exploit est possible donc, mais le risque est grand, on le sait, on est tous d'accord aussi pour dire que Nice a fait du bien, que le match était cohérent la semaine passée, que la Payade a combattu, qu'elle a fait preuve d'un gros mental pour résister à cette équipe de Nice, certes 16e attaque de Ligue 1, faut aussi pas l'oublier, parce que là aussi on est tous d'accord pour dire que Montpellier est en sursis, que Montpellier n'est pas guéri, que les failles sont toujours là, on les a vues apparaître, elles ont pas été exploitées, donc voilà, il y a de la place ni pour l'emballement ni pour l'euphorie, c'est l'avis de Jordan Ferry.
Si on s'emballe maintenant, c'est qu'on a absolument rien compris. On le voit au classement, tout est vachement serré. Il suffit de revoir un enchaînement de matchs avec des résultats négatifs et on se retrouve au même endroit où on était avant Nice. Donc bien sûr qu'on va pas s'arrêter là. L'ambiance est plus légère après une victoire, mais ça ne veut pas dire qu'on travaille pas pour autant. Au contraire, on a envie de revivre ces émotions qu'on a vécues à Nice et on sait que ça va passer par beaucoup de détermination, de solidarité, beaucoup d'efforts pour maintenir notre club en Ligue 1 et voilà, on sait qu'on est loin d'être arrivé en tout cas. Donc c'est pas être plomber l'ambiance ou quoi. Nous on en est conscient. C'est une victoire, c'est un pas vers le maintien et à nous d'aller le chercher.
Et j'en viens à ma deuxième question, du coup, qui rejoint la première. On parlera dans un instant de ce qu'il faut faire ou pas faire. Est-ce qu'il faut être passif ou actif? Autrement dit, est-ce qu'il faut être agressif ou est-ce qu'il faut attendre cette équipe de Paris et ne penser qu'à défendre? Mais d'abord, Benji, est-ce que dans le contexte, oui, Montpellier sort de cette victoire face à Nice, on dit un gros, mais un gros malade quand même, qui reste sur plusieurs matchs sans victoire en championnat, qui a été sorti aussi cette semaine en Coupe de France. Est-ce que malgré tout, tu as la qualité, la tête, la dynamique pour pouvoir faire un coup face à ce Paris Saint-Germain?
Oui, moi personnellement, je pense qu'on peut faire un coup. Nice, j'ai revu des qualités de combat, de solidarité qui m'ont plu. Et il y a quelque chose qui est important dans le foot qu'on ne maîtrise parfois pas trop, c'est que tu as la réussite qui est revenue sur ce match-là. Tu marques deux buts, un petit peu venu d'ailleurs, un petit peu cadeau. Donc ça, c'est, j'y crois à ces trucs. Parce que tellement de fois dans la saison où ça n'a pas tourné dans notre sens. Et je crois à la réussite et un changement dans les vestiaires. Des fois, tu sais pas pourquoi. TJ va retirer le même corner toute la saison. Et là, Todibo, il a mis en CSC. Tu sais pas pourquoi. Mais la réussite tourne. Donc je crois en ça. Il va falloir avoir les mêmes qualités de combat, de solidarité face à ce PSG-là. Il va falloir vraiment faire un match à 150%. Mais que ce soit Paris ou Le Havre, je te dirais la même chose. Mais je crois qu'on peut faire un coup. Après, le facteur X, et pour moi, ça change tout, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'est-ce que Luis Enrique a dans sa tête ce soir? Est-ce qu'il veut mettre les Galactiques contre nous, ressortir tout le monde et mettre ses fusées avant la trêve? Ou est-ce qu'il veut continuer à faire des rotations et à faire des tests comme il fait, ce qui serait mieux pour nous.
Et ça changera sans doute la stratégie possiblement de Michel Derzakarian, on en parlera dans un instant, c'est votre clé du match. Avant ça donc, Nico, Baptiste, est-ce que ce que vous avez vu, au-delà des lacunes qui sont toujours présentes, et on le sait, et que Montpellier n'est pas sorti de l'auberge et tiré d'affaire, mais est-ce que ce que vous avez vu face à l'OGC Nice en termes de mentalité, de combat, comme le dit Benjamin, de valeur exprimée, de solidarité, est-ce que ça vous rassure à la fois pour la suite et à la fois pour ce week-end, Nico?
Pour la suite, pour notre championnat à nous, pour les matchs qui vont arriver, oui. Après, par rapport à Paris, on est à 6 étages en dessous. Après, à un moment donné, moi j'ai regardé le match, la première mi-temps de Paris contre Nice là en Coupe de France. Waouh, la première demi-heure, Paris, c'était incroyable. Tout est relatif, mais à un moment donné, on est très très loin de ce niveau-là. Donc, s'ils nous mettent la tête sous l'eau et qu'ils nous marquent un ou deux buts en une demi-heure, mais fin de l'histoire, on peut rentrer, on dormira plutôt dimanche soir et on sera en forme lundi. À un moment donné, ça va être compliqué, mais voilà, le facteur X, c'est l'équipe qui va mettre en face Luis Enrique et notre état d'esprit.
Est-ce que, Baptiste, ça t'a rassuré? Est-ce que c'est encourageant ce que tu as vu? Est-ce que c'est de bon augure pour ce week-end et pour la suite? Même question qu'à Nico.
Moi, ce qui m'a rassuré, sur les 4 derniers matchs de Montpellier, tu n'es pas dégueulasse contre Metz et tu n'es pas dégueulasse contre Lyon, parce que tu as Omer Hajik derrière, parce que tu peux aligner un petit peu ta défense et être costaud et être solide, perméable. Les matchs qui suivent contre Marseille et contre Strasbourg, tu n'as pas ta charnière et du coup tu bricoles et du coup tu passes au travers complètement. Et là, magie, Omer Hajik revient et tu fais un super match contre Nice. Donc moi, pour moi, le factoriste en parle souvent. Pour moi, c'est vraiment notre défense. Et quand tu as tes éléments, tu peux te permettre d'espérer et de voir plus grand. Tu as quand même réussi à accrocher chez toi Lens, Rennes, etc. Tu fais des 0-0. Tu marques pas, mais tu as les actions et tu as le potentiel pour les gagner, ces matchs-là. Parce que si, avec un peu plus de réussite, tu finis. Si Accor, il est tueur à ce moment-là, tu prends plus de points. Selon la compo du PSG dimanche, tu peux avoir aussi le même scénario, mais il faudra finir.
Et ça dépendra aussi de qui, toi, tu es en capacité d'aligner. C'est il y a ça. Quelques incertitudes ce soir. On sait que Efti et Chotard ne seront pas là. Chotard, ça va sans doute manquer cruellement, même si le Roy a fait un super, une super deuxième mi-temps. Et Baptiste, il a enregistré la cassette et il se repasse. Ça fait,
son extérieur, je n'en ai pas dormi.
Ah, je pense que ça fait une semaine qu'il saoule sa famille et sa femme avec le match de le Roy.
J'ai encadré le maillot dans le salon.
Et sa femme est partie ce week-end.
Elle reviendra le fin mai. Efti et Chotard donc ne seront pas là. Tamari, Michel Derzakarian nous a dit ce matin, parce qu'on l'avait pas vu à l'entraînement, qu'il a un début d'angine, mais c'est pas l'angine qui va l'empêcher de jouer le match face au PSG. Il a très envie de le jouer. Évidemment, il est en train de serrer les dents. Tamari, il se fait faire des injections. On croirait la Juventus à une époque.
Pas de suspicion de dopage. Quand même. Non, c'est des infiltrations. Attention à ce que tu dis.
Inquiétez pas, il y a pas de dopage, mais il se fait infiltrer quotidiennement, quasiment, parce que franchement, Tamari, c'est chaud là, ce qui est en train de vivre. Il serre les dents, il a mal, il a très mal, et je sais pas combien de temps ça va tenir. Lui-même ne sait pas combien de temps il va tenir sur ce rythme-là. Et puis il y a une autre incertitude qui s'est ajoutée à ça. Bon, il y a pas vraiment d'incertitude pour Tamari ce week-end. Sera sur le terrain, sauf si l'angine devient.
Sauf s'il n'est pas dans le 11.
Attention. Oui, voilà, il sera en tout cas dans le groupe Moussa Tamari a priori. L'incertitude en revanche, elle concerne Kouyaté qui a eu une alerte musculaire qui était absent quand on est arrivé ce matin à l'entraînement, Benji.
Ouais, petite alerte musculaire à l'entraînement, pas sorti ce matin, resté en soins. Un test va être fait veille de match. Demain, on va le tester pour voir s'il répond favorablement, il pourra jouer contre Paris. Si malheureusement, il répond pas favorablement, si c'est encore une petite douleur musculaire, on prendra pas de risque. Il faut l'avoir. Après, on le retapera pendant la trêve. Est-ce qu'il ira après ça? Je sais pas. Est-ce qu'il ira en sélection? C'est pas sûr non plus. Mais voilà, petite alerte à voir. Connaissant le bonhomme, il va pareil. C'est pareil que Moussa. C'est des soldats. Moi, j'appelle ça des soldats et la blessure les freine pas. Mais quand c'est musculaire, c'est différent.
Nico.
Moi, je suis un petit peu médecin pour Tamari. Prednisolone 20 mg, 3 cachets le matin et normalement dimanche, il joue. Il n'y a pas de souci.
C'est docteur Maboul.
Ah, ben ouais, je veux dire qu'il est là, il en a dans le cordé.
Stéphane, est-ce que Stéphane est médecin? Bonsoir, Stéphane.
Ah non, je suis pas médecin.
Bonsoir.
Bonjour, oui, Gilbert.
Bon, salut.
Est-ce que Stéphane, tu as quand même, un conseil à donner à Moussa Tamari ou à Michel Derzakarian?
Ben, Tamari, il faut surtout éviter un peu le contact, mais bon, c'est difficile dans son poste. Hein. Mais bon, si ça peut tenir encore, mais moi, j'ai pas trop espoir hein, d'ici la fin de l'année, la fin de la saison, il aura toujours un peu de mal. Je pense. Ce qu'il lui faudrait, c'est le repos, je pense, ou une opération, mais ça va être dur quand même. Hein.
Et est-ce que tu penses, alors, pour revenir au débat d'avant, est-ce que tu penses que c'est un match bonus? Toi, tu en dis quoi?
Justement, Bertrand. Lundi dernier, j'ai fâché un peu Benjamin quand je lui disais que.
Pour mais il est assez suicidaire.
Non, je me fâche jamais, t'inquiète pas Stéphane. Alors là,
Et donc il m'avait dit, il n'y a pas de match bonus. Et puis toi, tu ranquis ce matin dans les conférences.
On a posé la question.
Et il va nous frapper là, Benjamin.
Non, c'est bien poser la question aux acteurs. Quand moi, c'est mon ressenti, Stéphane. Moi, je pense qu'il n'y a plus aucun match bonus, mais l'a posé à Derzak et à Jordan Ferry. Ce matin, c'était opportun d'avoir leur son de cloche.
Je sais bien, mais comme vos invités, je partirais quand même un petit match bonus quand même. Parce que bon, comme l'a dit Jordan, en début de saison, on ne s'attend pas à prendre les 3 points. Mais déjà, avant de prendre les 3 points, il faudrait déjà essayer de prendre un. Et seule issue pour obtenir un point, il faudra surtout déjà bien défendre avant de commencer. Hein. C'est pas lancer des espaces, partir à tout va à l'attaque, parce que contre le PSG, ça va pas pardonner. Parce que j'ai remarqué, PSG, tant qu'il y a un but, le deuxième, il arrive très peu après. Mmh. Et 2-0 à la mi-temps, c'est fini, quoi.
Oui, donc, ce serait plié. Ouais. Après, Là où je rejoins quand même Benjamin dans l'histoire, c'est que je n'aimerais pas que Montpellier doive jouer son maintien sur la 34e journée ou sur la 33e. Et donc en effet, plus tôt tu auras pris les points. On est à 26 aujourd'hui, même si on nous en a retiré un, même si on nous en a retiré trois, c'est Michel Derzakarian en conférence de presse. J'aimerais en effet, parce que si tu fais un exploit contre Paris ce week-end, sait-on jamais, tu seras à 29 unités.
T'en manquera
très honnêtement
2,5.
Le maintien, il va se faire autour de 32-33 points.
Ouais. C'est ça, et d'accord. Surtout les deux dernières dernière journée, n'oublions pas, on va Monaco et Lens. Ouais. Donc si tu dois te faire le maintien, eux ils auront des trucs à jouer sur l'Europe. Si tu dois te faire le maintien contre Monaco et Lens, c'est compliqué. Donc ouais, comme tu dis, il faut le faire avant. Et de gagner Paris, de prendre aller un point ou trois points, ça t'offre un petit joker où tu peux peut-être faire l'erreur face à un concurrent direct. Parce que c'est sûr, oui, si les quatre concurrents directs qu'on va avoir, on les tape, il n'y a pas de souci, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais pas avoir ce cas-là où les quatre concurrents directs, on est obligé de les taper les quatre. Parce qu'aller gagner à Toulouse, tout ça, il va falloir se lever aussi.
Bah de toute façon, comme tu dis, Benjamin, si les deux dernières journées, on est encore à la lutte, moi je dis, on descend.
Ah, parce ça, que là, ça va être très dur.
On peut pas aller faire un. Pour moi, on peut pas aller faire un chercher à obtenir un point ou deux ou une victoire à Lens ou à Monaco. Pour moi, c'est mort. Il faut que ça soit réglé d'ici un mois et demi. Hein.
Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ce match très au sérieux. Le groupe, en tout cas, est déterminé. C'est ce que nous a dit aussi Jordan Ferry ce matin. Ils ont parfaitement compris maintenant qu'ils jouaient le maintien. Ils l'ont aussi montré face à l'OGC Nice. Écoutez Jordan Ferry.
C'est un groupe où il y a beaucoup de compétiteurs, où il y a une très très bonne ambiance. Et ça, c'est important dans les moments difficiles. On a pu lire beaucoup de choses sur nous, sur un accrochage entre moi et Yann. C'est ce qui est la vérité, mais ça fait partie d'une vie de groupe. Ça a été réglé entre Yann et moi de la meilleure des manières par une discussion. Et on en ressort le groupe plus fort. Donc c'est un groupe qui est extrêmement solidaire, qui est extrêmement revanchard, qui a vraiment envie de s'en sortir et de montrer le meilleur visage de lui-même.
100% paillade sur France Bleu Héros. 100% paillade sur France Bleu Héros. La clé du match.
Bon alors c'est bien, on entend, hein, l'épisode Caramo-Ferry a été totalement évacué. Stéphane, je te garde la clé du match, c'est Benjamin ce soir, Benjamin Psaume évidemment, elle est notamment tactique selon toi Benji, le tableau noir est de sortie, regardez. Là.
Ce matin on l'a fait le tableau noir à Gramont. La clé du match, c'est assez rare que je fasse ça Bertrand, mais en fait je vais te la faire un petit peu sur l'adversaire parce qu'on reçoit l'adversaire, la meilleure équipe de notre championnat, et en fait j'aimerais être Luis Enrique ce soir et ça va être ma clé du match parce que le débat un petit peu qu'on avait avec les confrères ce matin, c'est comme tu l'as dit, actif ou passif, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on essaie d'aller chercher Paris parce que je vois des équipes aller les chercher, et Paris dans la ressortie de balle, Hakimi il y a une semaine contre Reims par exemple, font souvent des pertes de balles et si tu mets une pression ils peuvent se tromper et tu peux leur faire mal, mais t'as le risque de te faire ouvrir si tu vas chercher très haut en contre-attaque. Donc en fait ma clé du match, c'est à 1h30, bien évidemment, je vous explique rapidement comment ça marche. Le staff de Michel Derzakarian, aux joueurs, à la séance vidéo du matin du match, va proposer une équipe en face. Il va proposer une équipe du PSG que selon les infos du staff, les trucs qu'on pense. Donc en fait, il y aura une équipe en place et cette équipe, avec les trois fantastiques devant, pour moi, c'est eux qui te plombent tout. Parce qu'en fait, personnellement, je pense que Mbappé, Dembélé et peut-être Barcola, il les fera souffler. Contre Nice, il les a fait jouer. Mbappé a joué 90 minutes, donc je pense que contre nous, il ne jouera pas. Et Dembélé, ça peut être pareil. Parce que si tu as Gonzalo Ramos devant, tu as sur le côté Lee et tu as peut-être allé Colomoigny qui a un peu plus de profondeur, je te dirais, peut-être allons premier quart d'heure, allons les chercher parce qu'ils auraient presque pas de profondeur. Mais là où c'est suicidaire, si t'as Dembélé, Mbappé sur le banc et Barcola, je peux pas te dire va les chercher parce que s'ils arrivent à sortir une fois de notre pressing, il y a le feu. Il y a le feu et ça peut faire un zéro vite. Donc en fait, ma clé du match, ça va être quand les compos vont tomber, Michel Derzakarian va expliquer à une équipe quand les compos vont tomber. Peut-être que c'est rare, mais il va devoir s'adapter à une heure et demie du coup d'envoi et à dire les gars, déjà nous, je suis honnête, je le concède, je ne peux pas vous dire comment on a joué. On a joué à 4 à Nice, ça a fonctionné, ça a marché face à une équipe malade. Mais est-ce que contre le PSG, avec l'absence de Chotard, on va repasser à 5 ou pas? C'est compliqué avec l'incertitude Kouyaté notamment. Je ne peux même pas vous dire. J'ai ma petite idée, mais c'est très très compliqué. Mais en fonction de la compo parisienne, je vais peut-être adapter Michel Derzakarian juste avant d'aller à l'échauffement. Je vais peut-être parler à mes joueurs et je vais peut-être dire les gars, on les aura prévenus en amont, le matin, à la vidéo, en fonction. Et peut-être, allons les chercher. Bah, si c'est Ramos devant, c'est Lee, si ça se balade, ils n'ont pas de prof. Ils n'ont pas de profondeur. Et là, s'ils n'ont pas de profondeur, tu peux aller chercher, tu peux leur faire mal. Par contre, s'il y a les trois fantastiques devant, je veux dire, les gars, on fait bloc médian, bloc compact, agressif, comme je te dis à chaque fois contre Paris. Et par contre, à la récupération du ballon dans la zone médiane, importance de Leroy s'il démarre, de suite, je veux aucune passe latérale ou vers l'arrière. Vous me trouvez mes attaquants. Vous me trouvez mes attaquants vers l'avant parce que Paris, sur les transitions défensives, est en grand danger parce qu'ils attaquent énormément en nombre et ils n'aiment pas défendre cette équipe-là. Ils n'ont jamais aimé défendre. C'est là que tu peux les coincer. Mais en fait, pour moi, ça va se jouer à 1h, 1h30 du coup d'envoi. Si Luis Enrique nous fait le cadeau de ne pas me faire démarrer les Dembélé, les Mbappé, les Barcola, mais peut-être que tu peux faire un truc en allant les chercher pendant un quart d'heure et essayer de scorer.
La clé du match de Benjamin Psaume, actif ou passif, on en parle dans un instant. Quelle stratégie adopter face au Paris Saint-Germain? Faut-il aller les chercher ou faut-il les attendre? Compo, schéma, on continue de débattre dans 100% Payade avec Nico et Baptiste en studio. Stéphane, si tu veux, tu restes avec nous et tu nous donnes également ton avis dans un instant. 04 67 58 6000, si vous voulez deux places pour aller voir ce match Montpellier-PSG, vous appelez Hélène au standard tout de suite.
Réservé aux supporters du MHSC.
Réservé aux supporters du MHSC, pas beaucoup de Parisiens dans la région.
Mais Marseillais, on a vu le coup.
Marseillais, oui, mais Parisiens aussi.
On sait jamais.
Vous envoyez des Parisiens ici?
Il y en a.
Je vois une veste de Lama, moi, mais c'est tout.
Oh là là.
C'est pas Bernard.
Je vais attaquer son dégradé.
C'est pas Bernard Lama. 18h31, à tout de suite.
Du 3 au 6 juillet, le Montpellier Blues Festival est de retour pour sa deuxième édition. Rendez-vous Place Royale du Pérou pour 4 soirées de folie. Une soirée gratuite avec le meilleur du blues d'ici, une soirée de soul music avec Lee Fields et bien d'autres, la soirée funk avec The Earth, Wind & Fire Experience en tête d'affiche, et le top du blues avec l'incroyable Robert Finlay. Programmation complète et billetterie ouverte sur montpellierbluesfestival.org. Remportez vos invitations en écoutant la radio partenaire France Bleu. Les 15 et 16 mars, l'oursinade de Thau s'installe à 7. Venez déguster l'oursin à la chair si délicate, au corail orangé et savoureux. C'est maintenant la période pour l'apprécier. Dans une ambiance guinguette, les pêcheurs d'oursins, viticulteurs, conchiliculteurs, fabricants de tiel vous proposent des produits 100% locaux. L'oursinade, c'est vendredi 15 mars à partir de 18h30 et samedi 16 mars toute la journée, place Léon Blum, rue Gambetta et rue de Strasbourg à 7. Manifestation organisée par 7 Aglopole Méditerranée et la ville de 7. Plus d'infos sur aglopole.fr.
Ici, on parle football.
La Coupe Charles Simon, la Coupe de France, qui pendant un an part à Montpellier.
Chaque lundi et vendredi dès 18h, c'est 100% Payade sur France Bleu Héros.
Bon, vous l'avez entendu, Benji est partisan de s'adapter, pas en termes de compo et de système, mais en termes de consignes et d'attitude, oui. En fonction de ce que va aligner Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. La question, c'était actif ou passif, quelle stratégie adopter donc face à Paris? Faut-il aller les chercher, les agresser, les presser, ou faut-il les attendre en priant le ciel pour ne pas se faire transpercer? Baptiste, tu en dis quoi?
Alors moi, je serai actif sur le premier quart d'heure parce que je trouve que ça fait partie de nos forces en fait depuis toujours, historiquement. On a vraiment tendance très souvent à démarrer les entames de match très haut avec beaucoup de pressing, beaucoup de pression. Et on score souvent les premiers, à la Mosson en tout cas. Mmh. Quand tu attaques, pas face à la butte, mais face à Minervois. Mmh. En espérant que TJ gagne le toast après.
Le toast,
ce sera dans un quart d'heure.
C'est là où tu mets la tarama et tout.
Gagne le toss.
Le toss.
Okay. Après, tu dis le toss si t'as envie.
Oui,
hein.
Toast.
Le toss. Il n'y a pas de. T'as dit un T à la fin.
On appelle ça aussi le.
Oui, mais t'as faim peut-être. Mais...
On peut faire appel à la VAR et tu as dit le toss.
Ah, si à la VAR, tu sors.
Quand t'es à Noël, tu dis un bénis ou un béni?
Je mange des chips. Par contre, ce que j'aimerais souligner sur le dernier match à la Mosson contre Strasbourg, j'étais en petite Camargue et c'est pas la première fois que je l'observe. Tu as tendance à faire des très très belles entames de match, c'est une très belle ambiance dans le stade, la butte, les ultras sont chauds, etc. Par contre, ce que je constate, c'est que au retour des vestiaires en deuxième mi-temps et tu prends le but comme ça face à Strasbourg d'entrée, le stade est mort, les mecs sont encore à la buvette, ça met 5, 6, 7, 8 minutes à revenir et à se remettre à chanter. Et je trouve qu'il y a une espèce de moment de flottement dans le stade et ça se ressent aussi sur la pelouse. Ouais. Et j'espère que ça, un jour, ça sera peut-être un petit peu modifié. Alors, on parle pas ballon, là, on parle ambiance et atmosphère de stade, mais je.
Et un moment de flottement face à Strasbourg, il y en avait un sacré, un moment de flottement.
Et ouais, mais je reste persuadé que ça peut jouer par moment sur les entames de deuxième mi-temps, en tout cas. Je trouve que ça manque un petit peu de grinta dans les tribunes.
Après, je suis d'accord avec toi, mais par contre, c'est pas pour moi l'ambiance générale que les mecs sont encore à la buvette. On le voit dans plein de stades qu'ils sont encore à la buvette, tout ça. C'est pas ça qui doit agir sur les joueurs qui sont endormis. En aucun cas, les joueurs, c'est le discours du coach à la mi-temps de garder les gars concernés et de leur dire Strasbourg, t'as exactement raison. Au bout de 40 secondes, il y a péno. Et contre Paris, Alors là, moi je parle de Paris, je vous explique. Mais Paris, c'est 95 minutes, voire plus, où il faut être à 100% concentré. Parce que si on fait les cadeaux comme on faisait ces derniers temps défensivement, si on fait les cadeaux et tout, ben on va être puni direct et on va souffrir. Mais contre Paris, t'as même pas une minute où tu dois te relâcher, ça c'est du basique. Donc retour de la mi-temps, l'entame de match aussi. L'entame de match, je suis d'accord avec toi. Si on n'a pas les flèches devant côté parisien, moi, je suis d'accord avec toi. Mais allez-y les gars, allez me les presser les mecs, parce que derrière ils font souvent des fèves. Derrière eux, ils ont joué à 3 jours, ils vont arriver peut-être en dilettante, en détente, ils ont 10 points d'avance. Je les vois, c'est un peu Donnarumma, excusez-moi le terme, il a les pingos, c'est incroyable. Mais vas-y, va me le presser, que ce soit Nordin, Altamari devant, allez me le presser, allez me le chercher, que la butte s'enflamme un petit peu, que le stade s'enflamme, le premier quart d'heure. S'il n'y a pas les trois flèches devant, s'il y a les trois flèches, ne me faites pas ça, parce que s'il sort du pressing avec Vitinha, t'es foutu.
Ça, c'est l'avis de Kinder Pango, là.
Mais moi, j'imagine la scène à la mi-temps. Baptiste en petite camarade. Allez, les gars, on se dépêche dans la buvette, là.
Il faut aller. Va me les chercher.
Allez, Billy, là. Allez, Twix, à 2 euros, on envoie tout.
En train de manger.
Il n'y a pas assez d'ambiance.
En train de manger, c'est tous.
En train de prendre la flotte sur la tête, en plus, à la buvette.
Allez, Billy, gagne-moi le temps.
Putain, t'as pas droit à l'erreur.
Nico. Quel est ton avis, actif, passif? Est-ce que ça dépend, comme le disait Benji, de qui est aligné en face pour toi? Quelle est la stratégie à adopter?
Benjamin m'a convaincu. C'est beau, hein. Et son discours tout à l'heure où la notion d'une heure et demie.
C'est ça qui est dangereux avec lui, c'est qu'il faut pas passer trop de temps avec lui. Parce que je te jure que tu finis.
Regarde, Benjamin m'a convaincu, Baptiste beaucoup moins. Et pourtant ils ont parlé le même temps.
Baptiste, il t'a convaincu d'aller prendre l'apéro.
Ouais, voilà, il nous a donné fait.
Ben allez les gars, la buvette, on se dépêche. Non, mais il a raison. Je pense que d'adapter la stratégie en fonction de la composition qu'il va y avoir.
Ça, moi, je suis quand même très curieux de savoir si Michel Derzakarian fait ça.
Oui, non, ça c'est.
Alors ça, juste rapidement.
Mais t'as des coachs qui l'ont.
Tu m'as posé dans la question dans le vestiaire. Bien évidemment, ils mettent une équipe en place dans la préparation de match. Mais des fois, il suffit qu'un joueur ou un autre joueur soit pas là. Alors des fois, c'est juste sur un joueur. Ton latéral, tu penses qu'il va avoir un ailier, tu vas avoir un ailier particulier et t'en as un autre. Le coach, il voit la compo, direct, il va avoir le latéral. Il dit bon, alors ça, c'est différent, c'est comme ça. Ah bon. Mais là, le problème, c'est que Luis Enrique, il nous fait des... C'est un jeu qu'il fait, c'est incroyable. Il fait que des tests, il nous tente tout. Et le problème, c'est que t'as tellement de qualité que ces trois-là, ils te changent tout. Ces trois joueurs offensifs, ils te changent tout. Et donc, c'est pour ça que je pense que Derzak, quand il va voir la compo, en fonction s'ils sont ou ils sont pas, t'es obligé, quand tu vois la feuille de match, mais d'aller voir ta défense, d'aller voir ton milieu de terrain, d'aller en parler à TJ. Bon, TJ, finalement, voilà, en fonction de ce que je vous ai expliqué. Mais t'es obligé d'adapter, parce que t'as beau préparer les choses, mais t'as des surprises souvent, et encore plus avec ce PSG-là. Mais quand tu prépares toute la semaine, en opposition, un schéma parisien avec des joueurs en face et que c'est pas les mêmes à une heure et demie du coup d'envoi, t'es obligé d'adapter. Ça se fait dans tous les vestiaires, dans tous les clubs. Tu changes pas de joueur, bien évidemment, parce que tu peux pas le faire. Mais par contre, tu adaptes ton discours.
Ah, tu dis en plus de Derzak, je pense que Chato, c'est pas le même échauffement s'il sait que c'est Kanguili ou si c'est Mbappé qui est titulaire, quoi. L'échauffement, c'est pas le même.
Ah non, l'échauffement, j'espère bien, Nico, que l'échauffement, ce sera le même, qu'il se dit pas, ça va être plus facile ou plus dur.
Non, mais par contre. Dans la tête, tu vois ce que je veux dire.
Même pas, parce qu'il se dit, ça va être dur dans tous les cas,
Le problème, c'est que Mbappé, qui démarre ou qui démarre pas, s'il rentre, il va se le prendre quand même. Donc,
oui, bien sûr.
Mais c'est ça qui peut faire peur. On en parlera aussi parce que le problème, c'est que le banc à la 60e, ça peut te tuer.
C'est ça.
Mais par contre, oui, tu défends pas du tout pareil. Et t'expliques si c'est Lee, que ça rentre beaucoup intérieur, ça participe au jeu, ça prend pas la profondeur, ça pousse pas. Donc, Chato le sait très bien, il va adapter son jeu. Par contre, Mbappé joue dans l'axe. Donc, Chato, il aurait plus un Barcola ou quoi. Par contre, tu sais que si c'est Barcola, ne lui laisse pas se retourner une seule fois. Un mètre, t'es foutu. Donc c'est ça qu'il faut adapter, c'est ta façon de défendre.
Donc là, tu pars quand même du principe, du coup, que Chato commence, qu'il est passé numéro 1 dans la hiérarchie devant FT qui est blessé, mais du coup devant Falaï pour le coup.
Moi, je pense qu'il a fait une bonne rentrée à Nice. Qui est rentré à Nice. Falaï n'est pas dans le groupe depuis 2-3 matchs. À moins qu'il nous le sorte du chapeau, qu'il nous fasse le coup comme avec Wabi. Mais je pense que Falaï doit passer par la case rentrer, comme a fait Wabi, rentrer, performer en rentrant. Moi, je suis persuadé, je serais grosse surprise, mais c'est Chato qui va démarrer.
Chato, Leroy et Kazri, ça débute.
Moi, j'ai un gros doute sur Kazri. En fait, si tu joues en 3-5-2 ou en 5-3-2, ce que je préconise à titre perso face au Paris Saint-Germain, tu joues avec deux attaquants et je ne vois pas à quoi va servir Wahbi Khazri à deux attaquants devant, lui qui n'a pas de vitesse. Non,
en fait, ou alors il change et il laisse Chotard, Savagnier, Ferry et
Chotard blessé.
Et... Hein. Ouais, Chotard blessé. Ah oui, Chotard est pas là.
Un partout entre vous.
Sinon, Bébert, ça vaut les tosses de ça. Il a pas préparé son émission. Non, mais sinon, Bébert, par contre, je peux faire. Quand tu dis à deux, attention, t'as le schéma 5-3-2 dans ta tête, comme ça. Non. Tu peux très bien mettre Nordin devant ou Tamari et Wahbi va tourner comme il a fait à Nice. Et il tourne autour parce que, en fait, TJ, au final, contre Paris, il va se retrouver normalement assez bas. Mmh. Et si on peut avoir un gars qui fait le lien entre TJ et Nordin ou Tamari, la pointe, ou Adams ou qui tu veux, mais ça peut être Khazri qui peut le faire aussi. Donc, attention à
Benji,
voir.
Tu connais ma théorie contre Paris?
Redis-moi.
J'ai une théorie quand même contre Paris et je ne demande qu'une chose, c'est que les joueurs de Montpellier me fassent mentir, mais Derzak l'a quasiment confirmé à demi-mot ce matin quand il nous parle de son équipe, du profil, de ce qu'il va falloir faire ou pas. Moi, je reste persuadé jusqu'à présent et depuis quelques saisons, parce que grosso modo, il y a eu des changements dans cette équipe de Montpellier, mais le profil est assez similaire depuis 4 ou 5 années désormais, avec ce milieu de terrain petit gabarit, avec on a un profil qui est quand même assez similaire depuis quelques saisons. Et tu n'arrives jamais à gagner, au contraire, tu te fais ouvrir quand t'es au Parc des Princes et tu perds sans vraiment lutter quand t'es à domicile. Moi, je reste persuadé qu'il y a deux types d'équipes qui arrivent à accrocher Paris. Soit des équipes à niveau équivalent, les Rennes, les Monaco, etc., qui peuvent avoir des profils similaires, joueurs de ballon, pas forcément des gars hyper athlétiques, mais qui, parce qu'elles sont du même niveau technique, du même talent, arrivent évidemment à rivaliser, à les accrocher. Ce qui veut pas dire d'ailleurs que certaines ne perdent pas largement parfois face au PSG. Et puis, t'as un autre type d'équipe qui arrive à accrocher le PSG, qui jouent dans la même catégorie que Montpellier. C'est arrivé parfois avec un Strasbourg, un Lorient, ce que vous voulez, sur les dernières saisons. Ce sont des équipes qui ont en revanche des profils très puissants, très athlétiques, ce que Michel Derzakarian dit encore ce matin en conférence de presse, ne dispose pas. T'as pas ça à Montpellier. Et donc, sur quoi tu vas jouer face au PSG? Pour moi, il faut jouer comme tu as joué le match aller. T'avais pas eu de réussite, mais quand Skriniar était au milieu de terrain, lui le défenseur, quand Hakimi, qui est un latéral moderne, un piston moderne, rentre dans le cœur du jeu, que t'étais complète. Il y avait des boulevards au match aller. T'as pas su les exploiter, mais en fait, il va falloir jouer sur quoi? Sur la vitesse. Et c'est pour ça que je préconise plutôt le 5-3-2 avec deux flèches devant et qui vont pouvoir prendre la profondeur. Mais... si tu exploites, parce que au match aller, souvenez-vous, le scénario du match, tu fais pas, évidemment, une fois que les buts s'enchaînent, mais sinon, t'étais plutôt cohérent, je trouve.
Et Gilles en a une d'entrée qui finit pas, et s'il score d'entrée, peut-être.
Fayad en a eu, il y a eu des situations.
C'est ce que je te dis à chaque fois quand tu joues les gros. Après, c'est pas compliqué. La clé à chaque fois, je vais pas te la faire à chaque fois la même clé du match. C'est ta faculté à récupérer le ballon, à être compact et récupérer le ballon. Et comme tu dis, à exploser. Bah, c'est des équipes Marseille. C'est encore pire Marseille, je crois. Ils sont en déséquilibre, mais laisse tomber. C'est des équipes en déséquilibre qu'elles attaquent parce qu'elles attaquent à 8. Hakimi, s'il joue, il va être ailier droit tout le match. Et comme tu dis, il y a les boulevards. Mais il faut arriver à avoir l'intelligence et la justesse technique à la récup de me trouver la passe vers l'avant qui va faire mal, qui va casser les lignes. Et ça, ce sera la clé du match encore face à Paris, parce qu'on n'aura pas le ballon, bien évidemment. Comme tu le dis, la nouvelle mode qu'on voit tous les week-ends, c'est que ce soit Zaïre Emery ou Hakimi qui joue sur le côté droit, il va plus jouer milieu de terrain que latéral, parce qu'il va intégrer le milieu de terrain. C'est pour ça que je pense qu'il faut jouer à 3 au milieu, pas en 5-2-3, bien en 5-3-2. Mais voilà, c'est ça les trucs. T'auras pas le ballon, mais il faut bien défendre et avoir un peu ce brin de réussite, et puis, arriver à l'avoir.
Et Nico. Puis surtout, être capable de finir le peu d'action.
Baptiste. Ouais. Pardon.
Ouais, il faudra finir parce que contre Nice, c'est bien de fermer deux, mais ils sont offerts quand même. Hein. C'est Todibo qui marque tout seul et un pénalty qui est quand même offert par la main de la bande. Ça fait un petit moment quand même que tu as du mal à marquer. Donc il faudra pas les louper. Quoi.
Il faudra avoir la réussite qu'on a eu contre Nice pour faire un truc. Ben, si tu n'as pas la réussite dans les deux surfaces, c'est toujours pareil. Parce qu'en fait, on parle de tout, mais ce soir, je fais une digression vite fait. Derzak, ce matin, ce qu'il nous dit en conférence de presse, on a beau analyser, parler de tout, trouver des trucs, ce qu'il nous dit en conférence de presse quand même, que le gros truc qui a changé, et la victoire à Nice, c'est sûrement dû à ça, c'est tout con, les gars, c'est tout bête. Il a dit, on a eu de la réussite. Ouais. C'est tout bête. Todibo qui tire dans son but, de la board qui fait la main. Mais si jamais on perd 1-0 ce match-là contre Nice, notre analyse doit être un petit peu, elle va être différente, puisqu'on va dire, on a encore perdu à Nice, mais au final, c'est deux faits de jeu où Nice nous l'offre. Et si ça pouvait tourner sur la fin de saison, et si Paris pouvait nous faire un cadeau, comme Hakimi a fait un cadeau le week-end dernier contre Reims, et si Nordin frappe, ça peut faire poteau rentrant au lieu de faire poteau sortant, ben ça peut te changer une saison et nos analyses en seraient différentes.
Après, la réussite, elle se provoque. Et franchement, le match de Khazri, il va la chercher la réussite.
Ah bien sûr, oui, vois, bien sûr.
Il se bat, il va chercher oui, il va un chercher. Truc qu'il est en extension jamais.
Exactement.
Voilà, ouais. Il va chercher un truc.
Il va la chercher à Cork quand il rentre, il va chercher pas grand chose.
Non,
voilà, il n'a pas été bon quand il est rentré à Cork.
Oui,
dans l'état d'esprit. Pas... Tu vois.
Ouais, après sur ce match-là peut-être, mais
il y a 6 mois tu le voyais au Real et d'un seul coup.
Ouais, c'est
la Real, Perpignan la Real.
Messieurs, vous avez évoqué Enzo Chatto il y a quelques minutes. Je vous ai suivi attentivement. Enzo Chatto qui au Parc des Princes la saison passée avait scoré, c'était son 3e match en professionnel. Il avait débuté face à Brest à la Mosson, puis il avait joué face à Troyes, toujours à Montpellier, puis au Parc des Princes, 3e match en professionnel. Il marque, Khalil Fayad venait d'entrer en jeu en toute fin de partie. Défaite 5-2. Grand entretien ce matin avec le défenseur camerounais qui vient de disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Diffusion ce week-end et dimanche soir dans son intégralité en avant-match. On prendra l'antenne dès 20h pour le coup d'envoi à 20h45, trois quarts d'heure d'avant-match.
Voilà.
Extrait ce soir donc sur son but face au PSG, Enzo Chatto.
Ouais, j'y repense parce que c'est le premier, c'est le seul pour l'instant que j'ai marqué. Donc c'est sûr que j'y repense, on m'en parle moins maintenant parce que ça fait quand même un petit moment, mais avant on m'en parlait pas mal. Mais non, c'est sûr que j'y repense et qu'il a une saveur particulière. Marquer contre le PSG, je pense que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de le faire. Et non, franchement, c'est un très très bon souvenir et je pense que je le garderai toute ma vie, quoi.
On était dans les arrêts de jeu, 90+2 ou +3.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe sur le terrain à ce moment-là? Parce qu'il y a déjà 5-1, il n'y a plus grand-chose à jouer, à espérer. Quelle mouche t'a piqué à ce moment-là de faire cet appel dans le dos? Je crois que c'était Nuno Mendes qui était sur le côté.
Khalil, il rentre. Je me dis, autant jouer le coup à fond. Enfin, le match n'est pas fini, autant jouer le coup à fond. J'y vais. Et après, devant les cages, je vois qu'il y a un petit temps au premier poteau et du coup, je la place là. Je ne sais même pas en plus, parce qu'on prend 5 buts et tout. Mais en fait, c'est plus après, avec la réaction de mes proches et tout, que je réalise en fait que il s'est passé quelque chose, tu vois. Mais sur le moment, vraiment, je réalise pas trop ce qui se passe. Et puis voilà, quoi, je me dis, j'ai marqué un but. Et puis, c'est tout, quoi. Vu qu'il y a un score large et qu'il y a la défaite, je suis plus déçu par rapport à ça. Je pense pas à moi personnellement, là, sur le moment. Je pense plus à l'équipe et au score.
Marquer, c'est une chose, évidemment. Mais face à Paris, il faut surtout beaucoup, beaucoup défendre. Ouais. Très honnêtement, est-ce que c'est un plaisir ou est-ce que c'est un enfer de devoir jouer le PSG, de devoir défendre face à Mbappé?
D'un côté, on a envie de jouer contre des grands joueurs. Voilà, je pense que quand on est footballeur, on veut tous jouer des grands matchs contre les meilleurs joueurs, les meilleures équipes. Donc on est content de jouer contre les Mbappé, les Colomani, Dembélé et tout. Mais après, c'est sûr qu'une fois sur le terrain, il faut être au niveau et il faut surtout être prêt à souffrir pendant tout le match parce que c'est des joueurs qui sont capables de faire la différence, de t'éliminer, de te faire passer un mauvais match. Mais non, je pense que dans tous les cas, on est très content de jouer ce genre de match. Et en soi, c'est du plaisir. En vrai.
On apprend en tant que défenseur. On en ressort plus fort, plus grand, malgré des défaites et des scores larges.
Oui, je pense que moi, je suis quelqu'un, j'essaie toujours de voir le positif, de voir ce que j'aurais pu mieux faire, ce que je fais de bien. Toujours essayer d'apprendre, de voir ce que, après les séances vidéo, il y a tous ces petits trucs-là qu'il faut regarder pour sortir grandi et se dire, peut-être on a perdu, mais bon. Il y a ça que je peux améliorer, il y a ça qui s'est bien passé, il y a ça que c'est juste d'apprentissage, on va dire.
Voilà, entretien avec Enzo Chatto qui, on imagine, va débuter face au Paris Saint-Germain, à voir.
Ah ouais, ce serait surprenant qu'il ne démarre pas.
Tom nous dit, est-ce que Madame Irma Benjamin-Psaume peut annoncer victoire triplée? D'accord, merci d'avance, achète vos paillettes.
Pas tous les week-ends, mais je pense qu'on peut faire un coup, les gars. Honnêtement, je pense qu'on peut faire un coup, et on l'espère surtout.
18h48, on va jouer à présent pour tenter de gagner 2 places, ça concerne Christophe Agravel. Bonsoir Christophe.
Bonsoir à tous.
Et bonsoir à Hamid, votre adversaire ce soir à Montpellier. Bonsoir Hamid.
Bonsoir.
Bon, alors vous allez jouer, tenter de remporter 2 places pour ce match. Ce sont les 2 dernières sur France Bleu Héros. Christophe ou Hamid, Christophe, avec qui est-ce que tu veux jouer? Alors, vous allez avoir un chrono, 34 secondes pour me donner un maximum de réponses à la question que je vais vous poser. Tour à tour, c'est d'abord le jeu de Christophe et ensuite le jeu d'Hamid avec une question différente à chacun. Christophe, est-ce que tu veux jouer avec Nico ou avec Baptiste, supporter en studio?
Avec Nico.
Bien joué, Christophe.
Donc Christophe va jouer avec Nico et Hamid va jouer avec Baptiste. Messieurs en studio, Nico et Baptiste, vous ne les aidez que quand ils sont à court de réponses. Sinon, on va plus rien comprendre. Ça va être un brouhaha. C'est-à-dire que Christophe va démarrer, il va lancer toutes ses réponses d'un coup. Puis quand à un moment donné il sèche avant la fin des 34 secondes, là, vous pouvez Nico peut intervenir pour l'aider. Ok.
Je peux poser une question?
Oui.
Les deux sont supporters de la paillade ou?
Ah oui.
Allez, je vais me donner alors.
Bon. On va lancer le chrono. Quand je dirai top, c'est Axel qui réalise l'émission. Je vous demande, Christophe, ce soir à Grabel, de me citer le plus le plus possible et le plus rapidement possible évidemment, d'attaquants passés par Montpellier. Des attaquants passés par Montpellier, c'est parti.
Olivier Giroud, Kader Ferraoui.
Mais non, il était mieux.
Souleymane Camara.
Je l'aide ou non?
Oui, tu peux.
Delors, Abdoulaye Cissé, Fodé Mansaré, Laborde, Fabrice Divert, Souleymane Camara, ouais, John Utaka, qui c'est qu'on a eu? On en a eu mille. Kevin Berrigo. Je vais aller chercher loin. Je dis qui?
Pourquoi j'en ai pas Valère Germain.
Steve Mounier.
Ouais. Ça va vite.
Oh, Christophe. Mal. Oh, faut avoir envie, Christophe.
Tu as sauvé la mise. On est à 11. 11 attaquants cités, si j'ai bien compté. On va peut-être...
C'est bien parce que vous avez cité pas un seul attaquant de cette saison.
Écoutez,
quand même.
Ouais, c'est clair.
C'est incroyable.
11 attaquants ont été cités.
Pengastani. Merci.
Bon, ça va être maintenant à Hamid de répondre et de tenter de faire mieux. Hamid à Montpellier avec Baptiste pour et l'aider si il cale. C'est Hamid en fait qui dit vas-y aide-moi si à un moment donné il cale et c'est toi qui prends le relais, ok?
Allez.
Allez, je vous demande de me citer le plus de défenseurs possible passés par Montpellier, top.
C'est cadeau.
Alors, Victorino Hilton, Saint-Estève, Théo Saint-Plus, Omeragic, Bado, Thiago Silva,
Jeanne Champ,
tu peux y aller aussi, hein.
Jeanne Champ, Blanc, Yasser, Stambouli, Yagamiwa, Yagamiwa, El Kautari, Spahic, Zodic.
Ah, Christophe, on a perdu.
Allez,
en balle. Après, attends, il y a réclamation.
Le chrono est terminé. Le chrono est terminé. J'en compte 16 dont ceux que vous avez cités. Il y a des réclamations visiblement en studio.
C'est plus facile défenseur qu'attaquant parce que tu as toujours beaucoup plus de défenseurs dans un effectif que d'attaquants. Parce qu'il n'y a que deux postes en général d'attaquants et quatre défenseurs.
T'as les milieux offensifs, c'est attaquants. Les ailiers, c'est attaquants.
Ah, milieu, ça dit attaquant. Ça, c'est vrai, ouais.
J'ai compté Kader Ferraoui, les amis.
Ah, tu l'as compté, d'accord. C'était plus facile.
C'est Hamid qui remporte le jeu ce soir, Christophe.
C'est pas grave, mais c'est bien joué, Hamid.
Hamid, tu es content?
Je vais jouer à quoi? Ouais, ben, bon match, hein. Moi, je regarderai. Je regarderai à la télé. Hein.
Sauf si Hamid veut t'accompagner, vous y allez à deux.
Hamid, tu veux y aller avec qui? Avec Christophe ou quelqu'un d'autre?
J'avais déjà un ami qui espérait beaucoup y aller, parce que ça va être son premier match de sa vie, quoi.
Après, peut-être que Christophe peut devenir un très bon ami, et tu ne le sais pas.
Allez, pas voir.
Après, Christophe, t'as choisi Nicolas aussi.
C'est je suis bon joueur, fais profiter ton ami, t'as bien joué.
Parce que moi, je vais souvent à Gravel faire mes courses, et on m'a parlé de Christophe, et c'est un mec super sympa.
Ouais. Oui, le gars au petit casino, là, à la Valfière.
Exactement.
Voilà, tout à fait.
Bon, bah, Christophe, ce sera pour une prochaine avec grand plaisir, oui. J'espère. Oui. On va voir avec Hélène au standard si on a des petits cadeaux pour toi dans l'armoire à t'envoyer éventuellement. Parce que là, je sais que j'ai déjà un grille-pain à offrir à Baptiste pour cet host.
C'est os. Attention, c'est os.
Ouais, Nico.
En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Bravo, Hamid.
Merci à vous. Merci.
Et bonne soirée à tous les deux et bon match, Hamid, avec ton pote dimanche soir 20h45 donc pour ce Montpellier PSG. Merci à tous les deux. C'était plus facile comme jeu, c'était sympa. Ça.
C'était mieux, ça va, mais c'est plus facile pour les défenseurs.
Bon, ouais, il en démord pas.
Tu me laisses faire un jour organisé.
Si. Jamais de la vie.
Si, les stades de France. Enfin.
Jamais de la vie. Il faudra marcher sur le corps.
On fera les stades.
Ah tiens, c'est pas mal ça. Ouais,
c'est pas mal les stades. Le club.
À chaque fois, on va réviser. Quand on fait les déplacements dans la voiture, il nous saoule avec ces stades. Il nous sort des stades où il a joué en CFA, en D3.
Il y a un amateur, on en connaît quelques-uns aussi.
Ah oui, oui.
Lui, il est très bon. Lui, il est redoutable.
Jusqu'à national.
18h54, je ne sais pas si on aura le temps de parler des deux. Caramo, Fayad, vous préférez entendre Michel Derzakarian sur lequel?
Fayad.
Sur Fayad.
En effet, Fayad, j'ai demandé à Michel Derzakarian ce matin, j'ai signalé qu'il jouait pas beaucoup dernièrement, évidemment, qu'on le nous déplorait. On lui a souligné aussi le fait qu'il avait dépanné sur le côté durant la phase aller. Je lui ai demandé s'il avait pas finalement aussi perdu peut-être un peu ses repères, du temps aussi à son vrai poste au milieu de terrain en tant que relayeur, si ça avait pas été contre-productif de l'utiliser à contre-emploi, le petit Khalil Fayad. Écoutez la réponse de Michel Derzakarian.
Putain. Un tout petit peu raison par rapport à ça, oui, par rapport au poste où il a joué. Après, c'est un jeune joueur, il a à peine 20 ans, qui continue à travailler fort, qui, continuer à progresser, à écouter, à emmagasiner ce qu'on lui dit, le staff. Après, il faut qu'il progresse encore. Il a du boulot, il a du boulot devant lui. Il a les capacités pour aller à un bon niveau. À lui de se donner les moyens d'y arriver à travers son travail qu'il va faire au quotidien. Je pense pas qu'il va lâcher. C'est un garçon qui est bosseur aussi, qui a envie de progresser. S'il continue à être à l'écoute et qu'il travaille très très bien, il va y arriver. Pas de problème.
Nico, toi qui as beaucoup aimé la réponse de Michel Derzakarian, qu'est-ce que tu en dis? Il a ronchonné pendant toute la diffusion.
Non, mais il a raison. Après, on l'a vu disparaître du 11 après 2-3 bonnes performances. Après, voilà, nous, en tant que spectateurs, on voit les matchs le dimanche. Après, lui, il les a au quotidien, toute la semaine. On ne sait pas ce qu'ils donnent au quotidien, quel investissement ils ont. Après, il a raison, il a 20 ans, il veut pas le cramer. C'est un jeune du centre de formation, donc c'est autre chose que Caramo, dont ouais. On parlera peut-être après.
Je trouve quand même qu'on entend dans son discours, à la fois dans ce qu'il dit et entre les lignes, qu'il aime beaucoup Fayad et qu'il compte sur lui pour l'avenir. Et que la saison prochaine, je pense que Fayad sera utilisé à son poste, Benji.
Bah, en fait, on va dire... pour pas trahir de secret, en fait, on lui a posé la question Caramo en premier, Fayad. Caramo, ça a duré 5 secondes la réponse. Ouais. Fayad, il a pris une minute, 32 minutes. Donc c'est pour ça qu'aussi, on a senti que Fayad, il appréciait plus. C'est un mec du cru, c'est un mec du coin. Alors après, c'est vrai que là où c'est dommage, je suis d'accord avec toi, Bébert, c'est qu'on l'a pas mis à son poste, on lui a demandé de dépanner.
Oui.
Et malheureusement, il s'est cramé un petit peu à ce poste-là. On l'a un petit peu cramé sur ça. Alors, on en a vu d'autres, ça a marché. Steve a démarré latéral à Lorient, après il s'est imposé dans l'axe. Ça peut marcher parfois. Mais là, c'est vrai que Fayad, c'était pas son poste, on a insisté énormément avec lui. Après, comme tu dis, moi, je pense qu'il n'en voit pas assez. Il n'en voit pas assez aux oppos internes. Il n'en voit pas assez à Grammont pour le mettre vraiment dans la rotation. C'est pas pour rien. Le Roi qui rentre à la mi-temps à Nice et Fayad n'est même pas rentré. Je pense qu'il a baissé dans la hiérarchie. Il est à l'écoute. Il a l'air d'être à l'écoute. Il a des qualités. Mais va falloir, voilà, la semaine, ces matchs. Comme je te dis, quand tu es à la cave, tu joues pas. Tes matchs, c'est la semaine. Tes matchs, c'est ce qui se passe, c'est les séances d'entraînement. Et peut-être va falloir qu'il en fasse un peu plus.
Et il vient d'être sélectionné en U20 avec Lucas Mignolet.
Ça va lui faire du bien.
Après, Baptiste. Benji, est-ce qu'il a vraiment l'opportunité de pouvoir prouver, même s'il était à 3000%, j'en suis pas certain, dans la situation actuelle. On connaît Michel. Il aime s'appuyer sur des vrais cadres avec de la vraie expérience.
Et regarde, ton poulet, il va démarrer dimanche.
Oui, mais parce que Chotard est pas là. Et il est rentré parce que Chotard était pas là. Mais quand il a une idée, Michel, c'est compliqué, surtout dans la situation actuelle. Il va pas prendre des risques. Tu serais sauvé, tu serais 8e, tu jouerais rien. Je pense qu'il y aurait peut-être un peu plus de rotation. En tout cas, il aurait plus de facilité à le faire. Mais là, actuellement, vu la situation, vu l'urgence, plus compliqué de faire confiance à un jeune, je pense.
Alors, le fait qu'il n'y ait pas Chotard, peut-être, ça va peut-être lui faire intégrer à rentrer. Si le Roi, en cours de match, peut-être qu'il va rentrer en cours de match. Et c'est là, comme je t'ai dit, Kazri, tout ça, qu'il va devoir faire une grosse rentrée, surtout contre Paris, qui peut lui redonner du crédit et du bonus. Mais c'est vrai que ça nous embête, parce que moi, je pense que c'est un super joueur de foot, mais un super 8 ou un super 6. Pas un joueur côté. Et c'est vrai que c'est embêtant dans la situation actuelle de t'en priver.
Et, ouais, et là, c'est même pas un super sub. Donc,
c'est super, il fait les déplacements, il s'échauffe même pas. Je le vois à peine.
Ça m'attriste pour lui, parce que je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un gamin qui a énormément de qualité.
Et mentalité top. Aucune vague, rien du tout.
C'est un magazine de l'expérience, c'est positif.
Tu as menti en revanche, Benji. Sur la durée de la réponse de Michel Derzakarian à propos de Caramo. 5 secondes, c'était 12.
Parce qu'il y a des joueurs qui sont en avance sur lui, voilà. À lui de me montrer quand il rentre, quand il rentre un quart d'heure, quand il rentre 20 minutes, quand il rentre une demi-heure, de montrer les choses qu'il sait faire.
12 secondes.
Une belle erreur de casting.
On n'a pas le temps d'en parler, mais on y reviendra évidemment sur ce sujet. Merci à tous les trois d'avoir été en studio ce soir. Nico, Baptiste Tos et Benjamin Mso. Match 20h45 dimanche soir face au PSG sur France Bleu Héros, l'intégrale, et 20h la prise d'antenne. Merci Axel à la réalisation et Hélène au standard.
Merci les amis.
Merci.
Bonne soirée.